Nous ouvrirons ensemble la parole de Dieu pour notre 18e prédication sur les passages primordiaux pour la prière dans les psaumes. Notre texte de ce soir se trouve dans le psaume 102. Nous lirons ensemble à partir du verset 17. Psaume 102 à partir du verset 17. Oui, l'Éternel rebâtira Sion. Il se montrera dans sa gloire. Il est attentif à la prière du misérable. Il ne dédaigne pas sa prière. Que cela soit écrit pour la génération future, et que le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel, car il regarde du lieu élevé de sa sainteté. Du haut des cieux, l'Éternel regarde sur la terre pour écouter les gémissements des captifs, pour délivrer ceux qui vont périr, afin qu'ils publient dans Sion le nom de l'Éternel et ses louanges dans Jérusalem, quand tous les peuples s'assembleront et tous les royaumes pour servir l'Éternel. Amen. Amen. Voilà un psaume, dans lequel vous avez des promesses de délivrance certaines de la part du Seigneur, une assurance. Pour certains, dont nous voyons même, est-il marqué qu'ils sont prêts à périr. Regardez à la fin du verset 22, là, il est marqué, en fait, la traduction littérale, c'est les fils de la mort. Ça nous montre bien combien leur situation est désespérée humainement. Donc voilà. Et vous savez, il y a des gens pour lesquels Dieu fait de telles promesses. Et ce ne sont pas tous les hommes. Vous savez, nous vivons hélas dans un monde de misère, un monde de péché, un monde de malédiction, un monde de mort. Lorsque vous avez un beau passage que les chrétiens aiment beaucoup, c'est dans le psaume 91 au verset 7, quand il est dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. C'est vrai, c'est bien, c'est très encourageant pour celui qui est au bénéfice de cette promesse, mais ça nous rappelle quand même qu'il y a des situations affreuses où des hommes peuvent tomber à nos côtés par milliers. C'est aussi ce que ce passage nous dit quand même, en même temps. Donc avec des femmes, des enfants, des vieillards, et que c'est quelque chose de terrible. Mais vous savez, il en est ainsi depuis la chute. C'est le diable qui mène la danse. Normalement, c'est l'homme. L'homme sous l'autorité de Dieu qui aurait dû être celui qui soit le prince de ce monde. Mais c'est le diable qu'il est devenu. Et à cause de cela, parce que la multiplication du péché amène la multiplication de la malédiction et donc la multiplication des morts, et c'est pour ça que ce monde est dangereux à cause de la brutalité, à cause de l'orgueil, à cause de l'égoïsme et de la convoitise, à cause de la cruauté, de la dureté de cœur, de la rapacité, de la méchanceté foncière du cœur de l'homme sans Dieu. Ce qui n'empêche pas, remarquez bien, Dieu de faire grâce de façon extrêmement fréquente, malgré tout. Et beaucoup de vies sont épargnées et qui n'ont rien fait pour mériter ça. Et moi, j'ai qu'à prendre mon exemple personnel, où je sais très bien que quand je ne suivais pas le Seigneur, j'ai eu plusieurs situations qui sont marquées dans ma mémoire d'une façon indélébile, et où je sais très bien que je suis passé à un cheveu de la mort, mais je vois bien que Dieu avait usé de miséricorde à mon égard pour me laisser la vie, et je sais très bien qu'il n'y avait rien de bon qui habitait en moi, qui aurait pu, expliquer ou mériter ça. Et je ne parle même pas des situations où je ne me suis pas rendu compte de ça. Et ce que je dis, moi, si j'en parle, c'est parce que je pense que plusieurs parmi nous pourraient dire des choses comparables, pourraient dire des choses semblables les concernant. Et Dieu, donc, est bien. Et Dieu demeure bien, un Dieu qui use de patience envers tous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Et que de fois, donc, Dieu est celui qui a tendu les mains vers un peuple désobéissant et rebelle, trop longtemps, trop souvent, dans son immense désir de les sauver. Voilà. Ceci dit, la promesse de notre texte est très affirmative, mais pour qu'elle puisse s'accomplir, il faut quand même réaliser dans quelle disposition est la personne que Dieu va ainsi secourir. Comment elle, dans quelle attitude elle est, et comment elle évolue, et comment elle évoluera suite à sa délivrance. Comment le Seigneur, donc, se présente, ce qu'il envisage de faire et pourquoi il envisage de le faire, hein, parce que Dieu a des buts, hein, et quels sont ses buts, hein, et nous sommes invités à entrer dans ses buts, dans sa volonté. Alors, il est important, je crois, surtout de mettre en évidence ce que Dieu fait, ce que Dieu veut dans notre texte. Donc, en première chose qu'on voit, c'est que Dieu a l'objectif de rebâtir Sion. Hein, c'est ce qu'on voit au début du verset 17. Donc, oui, l'Éternel rebâtira Sion. Sion, c'est à la fois la capitale du peuple de Dieu, c'est le lieu où il veut tout particulièrement se révéler à eux, c'est le lieu où il veut demeurer au milieu d'eux, où il veut approfondir sa communion avec eux. Alors pour nous, actuellement, c'est l'Église du Dieu vivant. En attendant, il nous est question de la Nouvelle Jérusalem, de celle qu'il y aura pendant le règne de Milan, et surtout, pour ce qui nous concerne, bien sûr, la Jérusalem céleste, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur, celle où le Seigneur Jésus a promis de nous faire demeurer pour toujours avec lui quand il sera venu nous chercher. Amen. Alléluia. Et il est bon que nous travaillions aussi à cet objectif-là par notre attachement au Seigneur, à sa parole et au peuple de Dieu et par notre témoignage pour gagner les âmes à Christ, attendant et attend la venue du jour de Dieu. Amen. Deuxième chose qu'on voit, deuxième objectif que Dieu a, c'est de se montrer dans sa gloire. Et c'est ce qu'on voit dans la suite du verset 17. Il se montrera dans sa gloire. Le Seigneur veut se montrer. Le Seigneur veut se révéler. Hein, donc, et il veut le faire, et non pas, je dirais, d'une manière restreinte, non pas d'une manière timide, mais de manière glorieuse. Il veut se révéler glorieusement. Hein. Vous me chercherez et vous me trouverez, dit-il, si vous me cherchez de tout votre cœur. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras quoi ? La gloire de Dieu. Alléluia. Hein. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie, l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à Dieu, qu'il ne se lasse pas de pardonner. Alléluia, alléluia. Dieu veut se glorifier, déjà en agissant puissamment dans les cœurs, dans les vies, pour les transformer par la puissance du Saint-Esprit. Et il veut accomplir des prodiges, il veut accomplir des miracles, mais le grand but qu'il a, c'est pas de nous sauver. C'est pas son grand but. Le grand but qu'il a, c'est que lui-même soit glorifié. Il faut quand même se rappeler ça. Hein. C'est que la gloire lui revienne à lui entièrement. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Amen. Et là aussi, eh bien, il nous faut veiller et travailler à ne pas retenir pour nous la moindre part de mérite et de gloire dans cette affaire, parce que ce serait la voler à celui à qui elle revient entièrement, mais à le glorifier continuellement et de tout notre cœur. Amen. Et ça nous amène à notre troisième point concernant les buts et la volonté de Dieu. C'est que Dieu a pour objectif de se créer un peuple. Lorsque vous lisez dans le verset 19, la deuxième partie, « Et que le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel ». Dieu a toujours eu l'objectif de se créer un peuple. Hein. Il est en train, en ce moment, de se créer un peuple. Et un peuple particulier qu'il est en train de rassembler, c'est un peuple mis à part entre tous les peuples, un peuple choisi. Déjà, c'est ce qu'il voulait faire pour Israël, rappelez-vous. Il voulait déjà faire ça. Hein. Il voulait qu'il soit un peuple mis à part parmi tous les peuples de la terre, afin qu'il soit la lumière des nations, afin qu'il soit le moyen de travailler au salut et à la bénédiction du monde. Et nous savons hélas, parce que la Bible et l'histoire nous disent, qu'ils ont été globalement un peuple au cou raide, qu'ils ont résisté aux appels des prophètes, et qu'ils ont fini par rejeter le Fils de Dieu lui-même. Alors qu'est-ce que Dieu a fait ? Eh bien Dieu s'est cherché un autre peuple, pris du milieu des païens, pour les adjoindre à ceux d'Israël qui, minoritairement, s'étaient convertis à Christ. Hein, parce que souvenons-nous quand même que tout le Nouveau Testament a été écrit par des Juifs, hein, entre autres, par exemple. Hein. Faut quand même pas qu'on oublie ça. Hein. Et donc, ça a été quoi ? Ben, c'était l'Église du Dieu vivant, le rassemblement de tous ceux qui sont véritablement convertis, véritablement nés de nouveau, véritablement consacrés et marchant dans le chemin de la sanctification. Sans pour cela rejeter définitivement Israël. pour lequel Dieu a encore un grand dessein, pendant la grande tribulation, après l'enlèvement de l'Église, et pour toute la durée du règne de 1000 ans, qui va suivre. Mais ça, c'est une autre affaire. En attendant, Dieu continue sur sa lancée. Il ne perd pas de vue son objectif, qui consiste à créer ce peuple. Et l'objectif premier de ce peuple, c'est qu'il le célèbre. C'est ce qui est marqué aussi là. C'est ce qu'on voit également. Leur motivation première, c'est de le glorifier. Qu'ils aient à cœur de vivre pour sa gloire. Qu'ils aient à cœur de le louer en esprit, en vérité. Qu'ils soient des adorateurs. Qu'ils aient le but de faire toutes choses pour la gloire de Dieu. Qu'ils aient à cœur de toujours faire passer prioritairement les intérêts de Christ avant leurs propres intérêts, si concurrence il doit y avoir. Qu'ils aient à cœur d'aimer leur Seigneur de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force, de toute leur pensée. Alléluia, et bien sûr leurs prochains comme eux-mêmes, et que leur joie soit de célébrer le Seigneur avec tous ceux qui veulent l'adorer d'un cœur pur. Amen. Et que leur allégresse soit de lui rendre grâce et gloire. Et reconnaissez aujourd'hui ceux qui font partie de ce peuple et qui en feront partie dans la gloire éternelle à ce qu'ils ont cet état d'esprit-là. À ce qu'ils ont cette disposition de cœur et qu'ils vivent avant tout pour cela, pour le mettre de mieux en mieux en œuvre jour après jour. Amen. Amen. La quatrième chose que nous voyons dans cette affaire concernant, je dirais, le fonctionnement de Dieu, si j'ose parler ainsi, c'est, il est marqué au début du verset 20, « Car il regarde du lieu élevé de sa sainteté. » Alors là, voilà, rappellerons-nous jamais assez que le caractère primordial de Dieu, tel qu'il se révèle lui-même aux hommes, aux anges, aux archanges, aux chérubins, aux séraphins et à bien d'autres créatures, ce caractère donc premier qu'il révèle, c'est la sainteté. Il faut quand même toujours qu'on se souvienne de ça. Ses yeux sont trop purs pour voir le mal, dit l'Écriture. Sa pureté, ses perfections sont inimaginablement parfaites. L'astre brillant, le fils de l'aurore, l'archange glorieux, a été banni de sa présence à grand fracas quand le péché a été trouvé en lui. Il faut s'en souvenir, les hommes de Dieu parmi les plus consacrés, les plus remplis de foi et d'amour pour Dieu, qu'ils s'appellent Moïse, qu'ils s'appellent Ésaïe, qu'ils s'appellent Daniel, qu'ils s'appellent l'apôtre Jean, qu'ils s'appellent Ézéchiel, entre autres, n'ont pu que s'écrouler dans l'épouvante et dans la faiblesse extrême quand notre Seigneur ne leur a révélé qu'une part infime de sa sainteté. Il faut quand même se souvenir de cela aussi. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu ne va pas faire abstraction de la nécessité de sainteté dans ses rapports avec l'homme. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que Dieu attend de la part de l'homme qui s'approche de lui et qui veut bénéficier de ses promesses un désir de sainteté, un ardent et puissant désir de sainteté, une profonde aspiration à la mise à part pour Dieu. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Le travail du Saint-Esprit dans sa vie, c'est beaucoup, une grande insistance sur la sanctification. Nul ne peut servir Dieu et Mammon. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul, lui seul. Et pour ceux qui ont saisi cela, eh bien, la proclamation sans la sanctification, personne verra le Seigneur, c'est une évidence. C'est quelque chose qui va tomber sous le sens et quelque chose qui va les mener dans, ce processus de vie où ils sont. C'est pour eux qu'est le travail de sanctification de l'Esprit. C'est pour eux que Jésus-Christ a aussi été fait. Sanctification, donc, et que cette œuvre va se faire et se poursuivre à la gloire de Dieu. Amen. Et je remarque une cinquième chose encore, je vois l'insistance qui est mise sur le fait que Dieu regarde du haut des cieux, nous l'avons déjà vu au début du verset 20, il regarde du lieu élevé de sa sainteté, et il insiste plus encore, du haut des cieux, l'Éternel regarde sur la terre. Dieu regarde donc depuis sa position souverainement élevée en autorité. C'est lui qui est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, au-dessus de tout nom qui peut être nommé. Souverainement élevé en connaissance. Donc pourquoi? Eh bien parce qu'il connaît toutes choses. Il est omniscient. Il est le seul à l'être. Il pénètre toutes choses. Tout est à nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devrons rendre compte. Souverainement élevé en puissance. C'est lui, le Tout-Puissant, infiniment plus puissant que n'importe quelle créature la plus puissante qu'il puisse y avoir par ailleurs, souverainement élevé en sagesse. C'est en fait lui le seul sage véritable. Hein. Par exemple, bien sûr, la plus sage des sagesses humaines est infiniment plus folle que sa propre folie, si on se met à faire des comparaisons à ce niveau-là. Hein. Donc, souverainement élevé en justice. Et c'est pour cela qu'il n'y a rien de plus assuré que le jugement dernier. Hein, et le jugement du grand trône blanc auquel tout homme aura à rendre compte de tous ses actes, de toutes ses attitudes, de toutes ses paroles opérées dans son corps. Et en attendant, le tribunal divin est malgré tout toujours ouvert, jour après jour, sans discontinuer. Hein. Souverain aussi, souverainement élevé en amour. Dieu a tellement aimé le monde. Alléluia. Dieu est amour. Et il faut que ceux qui demeurent en lui demeurent dans son amour. Et nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Combien cet amour jaillit de toute éternité, du plus profond de sa nature divine, comme le fleuve des eaux de la vie jaillit du trône de la Nouvelle Jérusalem. Donc, et voilà encore, ben oui, évidemment, le grand secret de la Trinité, hein, c'est justement cela, c'est la démonstration que l'amour parfait est éternel lui aussi. Alléluia. Souverainement élevé en compassion, lorsqu'il est marqué « J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, pour secourir, pour consoler, pour ranimer, pour sauver. » Et David connaissait les immenses compassions de Dieu. Hein, lorsqu'il s'est retrouvé digne de châtiment, il savait qu'il fallait qu'il soit châtié. Alors de loin, il a préféré s'abandonner entre les mains de Dieu plutôt que de tomber entre les mains des hommes. Hein. Et effectivement, il a expérimenté même dans cette situation aussi la compassion de Dieu. Et on devrait parler encore de beaucoup d'aspects différents de cette élévation souveraine. Mais je crois que ce qui est important dans notre passage, c'est que ceux qui se trouvent justement dans cette détresse dont Dieu veut les tirer, qu'ils réalisent l'élévation, la grandeur de celui qui vient les sauver et les délivrer, et qu'ils réalisent par conséquent l'immense privilège qui leur est fait, que ce soit lui qui intervienne en leur faveur, de manière à ce qu'ils soient profondément reconnaissants, de manière à ce qu'ils n'oublient jamais ce que Dieu a fait pour eux, de manière à toujours se souvenir combien ils sont redevables à celui qui les a si glorieusement secourus, de manière à ne plus pouvoir vivre comme avant, mais de l'aimer désormais profondément, puisqu'il les a ainsi tant aimés le premier, hein, de manière à se demander « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ?» J'élèverai la coupe des délivrances. Et de manière à prendre cette résolution ferme de travailler pour lui, de combattre pour lui, et en toute chose de le servir et de l'aimer, lui le premier. Amen. Voyez encore une chose qui peut paraître surprenante, si on y réfléchit un petit peu, c'est combien l'insistance est mise sur le fait que, début du verset 18, Dieu est attentif à la prière du misérable. Ensuite, il ne dédaigne pas sa prière. Au début du verset 20, il regarde. Après, il regarde sur la terre. Verset 21, il écoute les gémissements des captifs. Et s'il écoute, et s'il regarde, et s'il est attentif, c'est qu'il a le but de délivrer ceux qui vont périr, comme on l'a vu déjà tout à l'heure. Mais pourquoi est-ce que Dieu passe tant de temps à écouter ? Regardez. Pourquoi tant d'attention à regarder? Pourquoi est-ce qu'il met une telle attention? Est-ce que ce ne serait pas plus facile, plus rapide, plus global, hein, de faire un grand miracle de délivrance pour tout le monde d'un seul coup, hein? Ah, par exemple, une guérison à grande échelle, de tirer tout ce paquet de misérables de leur état, tous ensemble, en une seule fois. Est-ce qu'il n'aurait pas la puissance de le faire? Bien sûr qu'il a la puissance de le faire, hein. Et puis on pourrait se dire, mais est-ce que Dieu ne sera pas plus glorifié en agissant ainsi? Ah, mes amis, vous savez, il n'y a eu qu'un seul paralytique guéri à la piscine de Bethesda. parmi tous ceux qui étaient là et qui attendaient le mouvement de l'eau. Hein, rappelez-vous, et à Nazareth, Jésus n'a pu faire aucun miracle, est-il marqué, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades pour les guérir, et il s'étonnait de leur incrédulité, nous est-il dit. Hein. Et lorsqu'on voit une guérison en bloc, si je peux parler ainsi, hein, parce qu'il y a quand même l'occasion où il a dit aux 10 lépreux d'aller se montrer au souverain sacrificateur, c'était quand même ça. Hein. Donc voilà, les 10 lépreux, sur les 10 qui ont été guéris, il y en a un qui est revenu, c'était un Samaritain, à l'étonnement douloureux de Jésus. Et on pourrait multiplier les exemples, et nous pouvons en conclure quoi ? Que si Dieu est attentif, si Dieu regarde, si Dieu écoute, c'est pour discerner la sorte de cri et de gémissement qui monte vers lui. Et oui, parce que voilà, hein, donc, parce qu'il y a effectivement dans ce triste monde beaucoup de cris de douleur, beaucoup de larmes de désespoir, beaucoup de gémissements, beaucoup de souffrances, c'est vrai, beaucoup de cris de révolte aussi, beaucoup de clameurs de détresse, beaucoup de gémissements de misère, beaucoup de cris contre Dieu. Mais quels sont les cris qui font véritablement appel à Dieu ? Hein, quels sont les cris que le recherche pour lui obéir ? Quels sont les cris qui s'accompagnent de repentance et d'humiliation, qui se soumettent à Dieu, qui placent véritablement leur espoir en lui, qui sont motivés par la confiance en lui, qui veulent s'engager pour lui? Ça, c'est les vraies questions qu'on doit se poser. Hein, donc, et mes amis, vous savez, il y a cri et cri. Il y a gémissement et gémissement. Hein, donc, et c'est pour ça qu'il est si important de considérer comment Dieu écoute et pourquoi, et de considérer ce qui lui est acceptable, ce qui lui est agréable et ce qui nous le rend favorable. C'est important. Hein. Voyons enfin le but de Dieu clairement exprimé au verset 22. Hein, donc, fin de notre lecture, vers la fin, afin qu'il plût dans Sion le nom de l'Éternel et ses louanges dans Jérusalem. Voilà ce que Dieu cherche. Voilà ceux qu'il va bénir, voilà ceux qu'il va secourir, voilà ceux qui vont pleinement bénéficier de ses promesses de secours et de délivrance. Une fois secourus, une fois délivrés, ils vont publier son nom dans Sion. Ils vont publier ses louanges dans Jérusalem. Ils vont s'attacher à lui avec reconnaissance et foi. Ils vont ouvrir leur bouche pour témoigner et pour le louer et pour le remercier. Ils vont désormais le suivre avec fidélité. Ils vont marcher ainsi dans la voie du ciel. Ce n'est pas la grande masse des incrédules hein, dont il est question. Question là, hein, de ceux qui ne veulent rien savoir de lui, de ceux qui sont négligents, indifférents ou même qui le haïssent, c'est pas cela. Ce n'est même pas le grand nombre de ceux qui ont bénéficié déjà de grâces miraculeuses et qui ensuite se sont détournés de lui. Nous l'avons déjà dit, si tous ceux qui ont été miraculeusement guéris ou exaucés ou délivrés par le Seigneur dans cette église où nous sommes, si tout cela était resté, je pense ne pas exagérer en disant qu'on pourrait remplir à ras-bord au moins 10 salles. Donc, c'est parce qu'il y a eu tellement de choses, mais nous sommes obligés de constater avec l'apôtre Jean en son temps, malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Hein. Jean chapitre 12 et verset 37. Et ça, c'est la généralité, voyez-vous. Et pour en revenir justement à ceux de ce temps-là, ceux qui ne croyaient pas en lui, hein. Bon, pas eux directement, mais certainement oui, eux, quand ils étaient âgés, ou leurs enfants, se sont retrouvés à Jérusalem, dans la grande et terrible catastrophe de l'an 70, hein. Donc, voilà, lorsque Jérusalem a été assiégée par l'armée romaine, Titus est venu, donc, il n'avait pas l'objectif de détruire Jérusalem et de massacrer ses habitants, mais les choses se sont passées de telle façon, hein, donc, que bien voilà, Jérusalem a été détruite, ceux qui n'ont pas été tués ont été emmenés comme esclaves et vendus à Alexandrie sur les marchés d'esclaves. Alors là, vous avez eu beaucoup de cris, vous savez, là vous avez eu beaucoup de gémissements, là vous avez eu beaucoup de lamentations. Ceux-là seuls qui échappèrent, à ce moment-là, il faut quand même le savoir, hein, ce sont les fidèles. Les fidèles croyants en Jésus-Christ, qui, profitant d'un répit surprenant qu'a laissé Titus, un moment Titus, ben il a laissé sortir et rentrer les gens comme il voulait. Ça a été une fenêtre d'opportunité, comme on dirait aujourd'hui, ça a été comme ça. Et alors eux, ils se sont souvenus des paroles de Jésus en Matthieu 24, donc, qu'ils ont appliquées à la situation, ils ont saisi l'occasion, et ils ont fui. Et ainsi, ils ont pu se sauver jusqu'à la ville de Pella, et là, ils ont été préservés de la malédiction qui a enveloppé la ville après. Voyez-vous? Et c'est pour ça que, frères et sœurs, il faut que nous puissions veiller à bien être en phase avec, les dispositions de Dieu, les objectifs de Dieu et les buts de Dieu. Hein. Que nous puissions, rappelons-le donc, avoir l'objectif de participer à la reconstruction de Sion, qui est le but de Dieu, comme on l'a vu au début du verset 17. L'objectif de chercher la révélation de Dieu pour qu'il se glorifie, pour le glorifier, comme on l'a vu après au verset 17. L'objectif de faire partie donc de ce peuple de Dieu qui est créé pour le célébrer. Hein, et que nous puissions aussi travailler à cela, considérer l'importance de la sainteté de Dieu, hein, marcher dans cette sanctification, cette vie mise à part pour Dieu, et ne jamais perdre de vue l'élévation de celui qui a bien voulu s'abaisser jusqu'à nous pour nous secourir, et ceci nous amenant une attitude de profonde révérence et reconnaissance. Et puis, considérons combien Dieu est attentif aux cris des malheureux pour chercher ceux qui sont dans de bonnes dispositions. Et nous aussi ayons à cœur d'être dans cette bonne disposition et d'encourager les âmes à se mettre dans cette bonne position. Et retenons bien le but que Dieu a, c'est que ceux qui sont délivrés publient son nom et sa louange et que nous puissions aussi ainsi faire tout pour la gloire de Dieu. Amen. Alors nous pourrons expérimenter tous les aspects de cette promesse, c'est vrai. Le fait que Dieu écoute notre prière, le fait qu'il ne la dédaigne pas, donc ça veut dire qu'il l'exauce, le fait que Dieu nous voit, que Dieu même nous regarde, hein, comme on le voit aussi au verset 20, le fait qu'il écoute les gémissements, qu'il nous délivre de la captivité, qu'il nous délivre de la mort, alléluia, et le fait de nous donner cette vocation céleste merveilleuse, ce service magnifique pour lui dans l'éternité. Et je dirais que tout ceci est d'autant plus encourageant, dernière remarque de conclusion, que d'autant plus encourageant que l'auteur inspiré dit au début du verset 19 que ça doit être écrit pour la génération future. Donc la génération future, donc pas seulement ceux de son temps, hein, mais ceux qui viendraient après. Ceux qui viendraient après, pour faire partie de ce peuple qui célébrerait l'Éternel et qui donc, jusqu'au moment où tous les peuples s'assembleront et tous les royaumes pour servir Dieu, donc jusqu'à la fin des temps. Tous ceux qui feraient partie de cela, et nous en faisons partie, Dieu merci, béni soit son nom, hein, et que cette promesse donc c'est pleinement pour nous aussi, et puis que le Seigneur soit béni pour ces assurances qu'il veut encore nous donner, gage de son amour sans faille, en faveur de ceux qui se confient en lui. Amen, amen. Te remercions notre Dieu, béni sois-tu pour les assurances que tu veux encore nous mettre dans nos cœurs, par lesquelles tu veux encore nous fortifier, nous affermir, et merci notre Dieu, parce que aussi, tu te révèles, tu nous révèles en tout cas tout ce qui nous est bon, tout ce qui nous est salutaire, tout ce qui est suffisant pour que nous puissions nous-mêmes aussi être des moyens de bénédiction, de salut, et que nous puissions être pleinement au bénéfice de ces promesses, que nous puissions pleinement les voir s'accomplir, se réaliser dans nos vies. Merci notre Sauveur, c'est là ton désir, c'est là ta volonté, et nous savons qu'aujourd'hui, plus que jamais, tu es attentif pour considérer la façon dont les cris montent vers toi, la façon dont la disposition des cœurs, Seigneur, et nous te remercions parce que par ton esprit, tu accomplis encore cette œuvre en nous. Sois béni, sois glorifié, notre Seigneur. Amen.